Par intermittence, le mont Erebus émettait des nuages de fumée et un de nos assistants, un jeune homme fort prometteur nommé Danforth, attira notre attention sur ce qui ressemblait à de la lave dévalant ses flancs. Il remarqua que cette montagne découverte en 1840 avait certainement été l'inspiration de Poe lorsqu'il décrivit 7 années plus tard « les laves qui déroulent inlassablement leur courant sulfureux le long du Yaanek ». Dans les climats ultimes du pôle, elles grognent en descendant le mont Yaanek au royaume du pôle boréal. Danforth était un lecteur avide de livres déconcertants, et il avait beaucoup parlé de cet auteur. Je m'y étais moi-même intéressé à cause des visions de l'Antarctique, dans le seul long récit écrit par Poe, l'énigmatique et perturbant Arthur Gordon Pym. Sur ce rivage désolé et sur cette immense barrière de glace obstruant l'horizon, des myriades de pingouins grotesques piaillaient et agitaient leurs nageoires, pendant que de nombreux phoques grassouillaient, sillonnaient les flots ou s'étalaient sur les énormes glaçons qui dérivaient lentement au gré des courants. Grâce à nos canots, nous avons abordé non sans mal l'île de Ross le 9 novembre, peu après minuit, munis de câbles reliés à chaque bateau afin de pouvoir décharger nos provisions grâce à des bouées tractées. Au moment de prendre pied pour la première fois sur l'Antarctique, nous avons ressenti un florilège complexe et poignant d'émotions, bien que les expéditions de Scott et de Shackleton nous aient déjà précédés. Le camp que nous avons établi sur le rivage gelé au pied du volcan n'était que provisoire. Notre quartier général resterait à bord de l'Arkham. Nous avons débarqué tous nos instruments de forage, nos chiens, nos tentes, nos traîneaux, nos provisions, nos bidons d'essence, nos appareils expérimentaux pour fondre la glace, des appareils photo ordinaires et aériens, des pièces d'aéroplanes et d'autres accessoires divers, y compris 3 petites radios portables, en plus de celles des avions, capables de joindre l'énorme installation de l'Arkham depuis n'importe quel point du continent antarctique, et ce, où que puissent nous mener nos recherches. La radio de bord communiquerait avec le monde extérieur, envoyant des rapports à la puissante station radio du journal Arkham Advisor, située à Kingsport Head, dans le Massachusetts. Nous espérions en avoir fini au bout d'un été antarctique, mais si cela s'avérait impossible, nous passerions l'hiver à bord de l'Arkham, renvoyant le Miskatonic vers le nord avant que les glaces ne se forment, ce afin qu'il nous rapporte des provisions pour l'été suivant. Il n'est pas utile que je répète ce que les journaux ont relaté de nos premiers travaux. Notre ascension du mont Erebus, nos forages couronnés de succès à plusieurs emplacements de l'île de Ross et la rapidité avec laquelle les appareils de Peabody remplirent leurs fonctions en traversant la roche la plus dure, notre périlleuse escalade de la grande barrière montagneuse avec nos traîneaux et nos provisions et, pour finir, l'assemblage de 5 grands avions au camp dominant la banquise. Notre compagnie, 20 hommes et 55 chiens de traîneau d'Alaska étaient en excellente santé, bien qu'à vrai dire nous n'ayons jusque-là pas eu à affronter des températures vraiment destructrices ni même de violentes tempêtes. La plupart du temps, le thermomètre varia entre moins 18 et moins 5 ou 6 degrés, et notre expérience des hivers de Nouvelle-Angleterre nous avait habitués à ce genre de temps rigoureux. Le camp sur la barrière devait être semi-permanent, destiné qu'il était à servir d'entrepôt pour l'essence, les provisions, la dynamite et autres fournitures. 4 avions suffiraient amplement pour transporter le matériel d'exploration. Le 5e, ainsi qu'un pilote et des hommes d'équipage, resteraient à ce même camp afin de pouvoir nous retrouver depuis l'Arkham au cas où nous perdrions tous nos appareils de reconnaissance. Plus tard, lorsque nous ne nous servirions pas de tous nos avions comme moyen de transport, nous en utiliserions 1 ou 2 pour faire la navette entre cette réserve et une autre base permanente sur le grand plateau à plus d'un kilomètre vers le sud, au-delà du glacier Beardmore. Malgré le fait que tous les récits d'explorateurs s'accordent à décrire de terribles vents et des tempêtes qui déferlent depuis ce plateau, nous avions décidé de nous dispenser de bases intermédiaires, prenant des risques au nom de l'économie et sans doute de l'efficacité. Nos bulletins ont décrit le palpitant vol de 4 heures sans escale qu'entreprit notre escadrille le 21 novembre, survolant la banquise alors que d'imposants sommets se dressaient à l'ouest et que le bruit des moteurs résonnait dans le silence insondable. Le vent ne nous dérangeait pas excessivement, et nos compas radio nous aidèrent à traverser la seule nappe de brouillard opaque que nous ayons rencontrée. lorsque l'immense crête est apparue devant nous dans toute sa masse, entre les latitudes 83 et 84 degrés, nous avons compris que nous avions atteint le glacier Beardmore, la plus grande vallée glaciaire du monde, et que la mer gelée allait laisser place à une côte montagneuse et renfrognée. Enfin, nous nous trouvions aux portes de ce monde blanc, mort depuis des millénaires, du Grand Sud. Au moment même où nous comprenions cela, nous vîmes s'élever à l'est le sommet du mont Nansen, dominant de ses presque 5000 mètres d'altitude. On sait de quelle manière nous avons réussi à établir notre base sud au pied du glacier, à 86 degrés 7 de latitude et 174 degrés 23 de longitude est, et comment nous avons mené à bien plusieurs forages et dynamitages extraordinairement rapides et efficaces à diverses étapes de notre voyage en traîneau et parfois en avion.